Napoléon, légende et vérité. Un feuilleton radiophonique hebdomadaire d'après le livre d'Henri Guillemin. Adaptation et voix, Stéphane Verru. Une coproduction compagnie avec Vue sur la mer, Radio PFM. Avec le soutien du Conseil régional des Hauts-de-France. 17e épisode.
Suite et fin de la campagne d'Italie. Le directoire ne veut de l'Italie que comme gage, un gage dont on aura d'abord tiré tout le suc, comme monnaie d'échange contre la rive gauche du Rhin. Telle n'est pas du tout l'idée de Bonaparte. Il s'est emparé de l'Italie du Nord, il la garde et veut en faire, en toute éventualité, sa possession personnelle. À Paris, on s'inquiète de ses manœuvres et l'on se propose de lui envoyer Kellermann, alors adjudant général, plus sûr, et qui serait là-bas son adjoint, mais avec une autorité égale à la sienne. Bonaparte explose. Un partage d'autorité? Jamais! Et il met les points sur les i. Les grandes opérations financières faites et à faire, les grandes moissons que nous avons à cueillir exigent une unité de pensée diplomatique et financière. 14 mai 1796. De nouveau là, deux fois un mot clé, financière. Bonaparte sait le dictionnaire du directeur Lazare Carnot. Rappelons les instructions de Carnot en 1794, et contre la volonté de Robespierre, aux généraux Jourdan et Pichegru, montrez à vos hommes les richesses de l'Allemagne. En Belgique, prenez tout, il faut vider le pays. Pensée diplomatique, dit Bonaparte, car ce chef de guerre s'arroge la diplomatie et mène les affaires nationales à sa guise. L'armée du Rhin, conduite par le général Moreau, est plus puissante que la sienne et pourrait très bien arriver à Vienne avant lui. Surviendrait une paix, façon directoire, dont les articles ne lui conviendraient pas. Il prend les devants, signe d'autorité un armistice avec l'Autriche à Leoben, en Styrie, et fait stopper l'armée du Rhin. Il organise lui-même l'Italie sans se soucier des intentions parisiennes. Il crée successivement une république cispadane, puis une république cisalpine, annexion à peine déguisée. Le directoire n'ose rien contre lui. Il a procuré au trésor, sans s'oublier lui-même, mais cela va de soi, beaucoup trop de ressources pour qu'il soit question de l'évincer. Afin de calmer Kellermann, dont il a refusé la présence, Bonaparte lui a adressé un petit présent d'1 million. Et le voilà qui joue à Leoben, puis bientôt à Campo Formio, au général de la paix. La paix avec l'Autriche, les Français l'attendent depuis 5 ans, et ils battent des mains. Bonaparte n'ignore pas que ce qu'il vient d'imposer à l'Autriche par la force n'est qu'un simulacre de pacification. La guerre est contenue dans le traité lui-même, où l'Autriche ne peut voir qu'un répit. Mais chut, que les Français dupés l'acclament, c'est tout ce qu'il veut pour l'instant. Bonaparte le victorieux, le pacificateur, reparaît à Paris le 5 décembre 1797, après 21 mois d'absence. Joséphine l'a trompé avec un loustic de régiment, le capitaine Hippolyte Charles, utilement accointé d'ailleurs avec la maison Bodin, fourniture militaire. Lui aussi, Bonaparte, en Italie, a trompé son épouse, à qui il dédiait cette prose remarquablement imagée, « Âme de la vie, toi qui m'inspires des mouvements impétueux, aussi volcanique que le tonnerre. » Sic. Joséphine rentre directement d'Italie sans passer par l'Autriche. Traversant Moulins, elle y est reçue sous un arc de feuillage orné de cette inscription pittoresque. Honneur à la vertueuse épouse du plus grand des héros.
C'est la vérité qui est coupable. Maximilien Robespierre. Napoléon, légende et vérité, d'Henri Guillemin, a été réédité en 2005 aux éditions Utovie.